Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Alors bonjour tout le monde, je suis apprenti en CAP métier de l'agriculture en première année et je m'appelle Lucas. Avec ma classe, nous allons vous présenter une émission écrite à partir d'un livre, Les Pieds dans la Terre, de Claire Lecoeuvre aux éditions des éléphants. C'est l'histoire de deux paysans sur plusieurs générations. Il y a cinq histoires différentes. Sur une famille d'éleveurs, des maraîchers, des viticulteurs, des arboriculteurs et des éleveurs de brebis en montagne. Nous avons choisi l'histoire auprès de ces vaches qui ressemblent plus à notre quotidien, une exploitation en polyculture élevage laitier. Ce livre permet de comprendre l'évolution de l'agriculture en suivant une famille d'agriculteurs. Nous avons donc fait des recherches sur l'histoire de l'agriculture en commençant par les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Nous allons suivre l'évolution d'une ferme des années 40 avec Alphonse, puis des années 60 avec Marie-Thérèse. Et pour finir, Christian dans les années 2000 à aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Nathan qui va vous présenter le début de l'histoire.
Au début du livre, nous avons l'histoire d'Alphonse le grand-père. Il est né dans un village breton comme sa femme. Dans les années 40, il cultivait 13 hectares. Il avait une douzaine de vaches. Sa femme faisait la traite à la main. Il fauchait l'herbe pour nourrir ses vaches. Il mettait du fumier, il vendait les veaux, le lait et le beurre au village. L'électricité n'arrive qu'en 1956. Sa fille Marie-Thérèse rappelait l'arrivée de l'électricité avant la famille s'éclairait à la bougie. Le métier était difficile physiquement car il n'avait pas encore de tracteur. Alphonse est obligé d'arrêter de travailler à 60 ans car il a des problèmes de santé. Il doit utiliser un fauteuil roulant à cause de ses genoux et de ses hanches.
Carl, quelle différence vois-tu avec ton métier d'aujourd'hui?
Maintenant, aujourd'hui, le métier d'agriculture, il y a plein de technologies et puis on peut pas dire que c'est le même métier maintenant. Ah, c'est moins difficile et puis c'est moins contraignant, moins de problèmes de santé.
Peux-tu nous présenter l'évolution de la main-d'œuvre?
En 1936, 37% de la population active travaillait dans l'agriculture. En 1955, la population active agricole est de 6,2 millions de personnes, soit 31% de l'emploi total en France. Les campagnes ont perdu près d'un million d'actifs entre 1946 et 1955. L'agriculture se mécanise à cette époque. De nos jours, les jeunes partent s'installer en ville et reprennent moins souvent l'exploitation familiale.
Merci Carl. Sullivan, explique-nous la récolte à cette période.
À cette époque, il n'existait pas les moissonneuses batteuses, mais seulement les moissonneuses lieuses, qui laissaient derrière elles, sur le sol, les gerbes de blé. Ces gerbes de blé étaient mises en tas avec les épis en haut tournés vers le soleil, qui allaient les sécher, puis le ramassage des gerbes doit se faire de la même façon que pour le foin, à la main. Les vaches étaient nourries avec le foin de la ferme où étaient mises à l'herbe dès les beaux jours.
Comment se passe la moisson aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, la moisson, ça se passe avec une moissonneuse, batteuse. Vous avez une barre de coupe qui récolte les épis et le grain. Après, ça va dans les convoyeurs. Et puis après, le grain va dans la trémie. Donc la paille sort à l'arrière de la moissonneuse. Le grain monte dans la trémie et quand la trémie est pleine, on vide avec la vis de déchargement dans une benne.
Merci Carl. Comment sont nourries les vaches actuellement?
Les vaches sont nourries avec du maïs en silage, avec de l'herbe en silage aussi et du tourteau de colza.
Merci. Les vaches vont-elles toutes à l'herbe?
Non, les vaches, ils vont pas toujours à l'herbe. Durant l'hiver, ils vont dans une étable, on les paille.
Merci à vous les gars. Nous allons poursuivre l'histoire, les pieds dans la terre, avec la fille d'Alphonse, Marie-Thérèse.
Hey, moi, je suis paysan, j'aime être dans les champs, mes bottes et mon bonnet, la mode ça me connaît.
Écoutons Dylan, merci.
Dans les années 60, c'est Marie-Thérèse qui reprend la ferme. Au départ, elle voulait être institutrice, mais finalement, elle s'installe avec son mari Louis. Ils agrandissent les parcelles, le mari s'occupe des champs et elle des vaches. Ils changent de race de vaches pour prendre des Primostein qui donnent davantage de lait. Ils s'endettent pour acheter des terres, construire une stabulation, acheter une trailleuse électrique et acheter un petit tracteur. Ils mettent des engrais pour faire pousser l'herbe, puis cultivent du maïs pour augmenter la production laitière des vaches. Mais les produits phytosanitaires coûtent cher et le prix du lait n'augmente pas.
Merci Dylan. À votre avis, pourquoi la famille a-t-elle été obligée de s'endetter?
La famille est obligée de s'endetter pour pouvoir agrandir l'exploitation, pouvoir produire plus et gagner plus, quoi.
À votre avis, pourquoi l'agriculture devient intensive à cette période?
Alors, la question, je vais vite la répondre. Il faut toujours produire plus et puis on nous fixe des quotas qu'il ne faut pas dépasser, sinon on paye. Si on fait moins, on paye pareil. Et si on est dans les règles, bah, c'est bon.
Bah, on a le prix du lait qui ne monte pas, hein, il descend pas mal, donc il nous demande de produire plus, mais on n'est pas payé assez cher, on a un coût de production qui est beaucoup trop élevé, comparé au prix où on a le lait qui est payé, donc forcément qu'il y a plein d'exploitations qui ferment et tout le monde est obligé de produire plus, et c'est pas le mieux, quoi.
Dernière question, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Pour quel intérêt vous le faites?
Bah, moi je vais dire, en tant que céréalier, c'est conduire les machines, mais pas que, faut se débrouiller quand on a des pannes au champ. Puis bon, moi depuis tout petit, je suis bercé dedans, et puis c'est une passion pour moi, donc c'est un métier, j'ai toujours voulu faire ça.
Ouais, c'est un peu de la polyvalence, entre guillemets.
Oui, voilà, c'est ça, c'est faut se débrouiller, faut être polyvalent dans ce métier-là. Si on est doué qu'à faire une tâche, ça sert à rien d'être agriculteur.
Dylan, Nathan, Evan, Kelver, vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien, s'il vous plaît?
Bah, moi j'aime bien personnellement tout ce qui est en lien avec l'élevage, donc passer du temps avec les animaux, c'est une passion, hein, voilà, faut dire ce qu'il y a. Et puis dans l'agriculture, disons qu'il faut être multitâche, hein, faut être plombier, faut être électricien, faut faire tout, faut être mécanicien, faut être couvreur à des moments, enfin il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse, quoi. Enfin, c'est un truc qui est bien, quoi, faut aimer faire plusieurs tâches. Et puis bah, l'agriculture, franchement, on travaille avec la nature, on travaille avec les animaux, on travaille, enfin. Voilà quoi, donc c'est. Moi j'aime bien.
Aujourd'hui on peut dire que l'agriculture nous nourrit en France. En France, c'est l'agriculture qui fait tout aujourd'hui.
Bah, moi je travaille dans les deux, alors dans les vaches laitières et puis les céréales.
La polyculture et élevage.
Oui, les deux. Je vois que les vaches laitières sont un peu plus sympas que les vaches allaitantes.
Ça c'est sûr, oui. Bah,
type d'élevage différent.
Exactement, c'est deux types d'élevage, comme Dylan dit, différents. Puis c'est des bovins qui sont tous les jours au contact humain.
Oui, et puis les allaitantes, disons qu'elles sont tellement amoureuses de leur veau que c'est pas du tout le même système qu'une.
Ah bah non,
tu rentres pas dans les veaux.
Tu veux, non, je sais, on en a, mais franchement, après, c'est une passion.
C'est une, c'est une préférence, oui.
Voilà, nous, je sais qu'on fait les deux, on s'en plaint pas. Hein. Si on le fait, c'est qu'on aime bien.
Par
c'est
passion.
C'est une passion, donc on le fait et on aime bien, on donc assume. on le fait.
Ouais, ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est d'être dehors, extérieur, dans la nature, auprès de la nature, être auprès des animaux, être au soin d'eux, s'occuper d'eux, et aussi être avec les machines agricoles.
La technologie aujourd'hui nous permet d'évoluer un peu, quoi. C'est comme si on avait une manette de jeu vidéo dans les mains.
Ouais, mais un peu plus gros.
On est un peu plus gros,
c'est sûr. Et puis c'est pas le même prix qu'une console. Voilà.
Ouais. Quand t'étais petit, tu jouais avec tes petites...
Les petits tracteurs, les petits tracteurs,
et aujourd'hui tu joues avec les gros. Ouais.
Bah, tu joues pas, tu travailles.
Tu travailles. Merci les gars pour vos réponses. On va laisser la place à Lucas, va présenter maintenant les transformations de cette époque.
Dans les années 1960 et 1970, des milliers de paysans vont disparaître. La population rurale composera de 15 millions de personnes, dont 5 millions de paysans, soit 10% de la population française. Le nombre de paysans actifs sera seul à diminuer sans cesse.
Merci Lucas, on va laisser place à Nathan qui va nous lire son paragraphe. Merci.
L'autosuffisance alimentaire est atteinte. On assiste à une concentration des terres et au remembrement indispensable. Pour l'utilisation des engins agricoles, la taille des exploitations augmente. 60% des exploitations françaises de moins de 20 hectares ont disparu entre 1967 et 1997. L'agriculture intensive devient la norme et les agriculteurs doivent produire en quantité et à bas prix, avec l'apport massif d'intrants, engrais et produits phytosanitaire. La France est le second consommateur mondial des pesticides derrière les États-Unis.
Merci Nathan. Autre petite question, comment ton patron fait-il aujourd'hui pour réduire l'utilisation des intrants?
Moins de passages dans les champs et ils s'appellent des désherbants moins polluants.
Et aussi il y a des plants de compagne et on peut avoir l'utilisation des bineuses, des herses, étrilles et d'autres.
Merci Lucas, merci Nathan. Titouan et Evan vont nous présenter la suite de notre histoire.
Si on avait tous de la terre dans les mains, les racines de la vie, les racines pour la vie. Regardez l'horizon, les pieds dans les foins, pour que poussent les fleurs, vienne la pluie.
Titouan, à toi.
Bonjour à tous, Christian, le fils de Marie-Thérèse, est né en 1967. Il est passionné d'agriculture. Tout petit, son père emmenait sur les tracteurs. Il reprend donc la ferme de ses parents et s'installe en 1994. Il commence à poursuivre le travail de ses parents, mais il ne veut plus faire de la quantité, mais de la qualité. En 2001, il change complètement ses méthodes et passe en agriculture biologique. Il veut donner moins d'aliments préparés pour ses vaches. Il avait des Primostein qui donnent beaucoup de lait, mais il change pour des vaches moins fragiles de race pinoire.
Merci Titouan. Autre petite question. En tant qu'apprenti dans une exploitation biologique, peux-tu nous expliquer la différence, toi, comment tu récoltes, comment tu produis, etc.
Bah, du coup, on n'utilise pas du tout de produits phytosanitaires. Pour, par exemple, apporter de l'engrais, on va utiliser le fumier et le lisier. Après, pour tout ce qui est les mauvaises herbes et tout, bah, on va utiliser des houes rotatives, des hercétries, des bineuses, mais qui vont venir un peu travailler le sol pour enlever la racine et la mauvaise herbe.
Merci, Titouan. On va laisser la parole à Evan, s'il te plaît. Merci beaucoup.
Ce qui compte pour lui, c'est avoir un lait de qualité et des vaches en bonne santé. Il préfère les mettre au pâturage 10 mois sur 12. Il plante des arbres pour faire de l'ombre à ses vaches, car les étés sont de plus en plus chauds. Il remet des haies où elles ont été arrachées. Il ne veut pas de robots de traite. Il ne veut plus de l'agriculture conventionnelle.
Merci Evan. Alors, petite question, Lucas et Titouan. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement d'un robot de traite entre un robot de traite et une salle de traite normale ?
Un robot de traite, la vache passe toute seule dans le robot et se fait traire tout seul. L'agriculteur a juste besoin de vérifier les vaches qui viennent d'avoir un petit. Ça fait moins de travail pour lui, plus d'heures à s'occuper des bêtes en dehors, mais il se lève moins tôt et se couche plus tard.
D'accord, très petitement.
Pour la traite à la main, c'est matinal et le soir. Donc le matin, on met les vaches à la traite. C'est un humain qui va mettre placer la griffe sur les vaches, qu'un robot c'est totalement l'inverse. Et puis du coup, c'est matin et soir.
Très bien, merci. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'un robot ?
Le robot calcule le taux de production de la vache et voit les passages de la vache.
Donc l'inconvénient, c'est un mauvais réglage, quoi, du fonctionnement.
Et la vache peut se faire traire toute la journée, quand elle veut. La traite artisanale, c'est le matin et le soir.
Très bien. Merci, Lucas. Maintenant, Titouan, peux-tu nous expliquer les avantages et les inconvénients d'une salle de traite ?
Les avantages, je dirais qu'une fois la traite finie, on n'a plus vraiment besoin d'y retourner. Et les désavantages, c'est qu'il faut être là matin et soir et qu'il faut toujours faire attention aux vaches malades, à ne pas les traire. Il y a beaucoup de choses à faire attention, que le robot lui va voir si la vache est malade ou pas.
Impeccable, merci beaucoup.
Et le fait de faire la traite avec une machine à traire, on est plus proche des vaches. Donc déjà, on va mieux voir leurs problèmes si elles font des mamites, des choses comme ça.
Le contact.
Oui, voilà.
Très bien. Merci. Mathias, explique-nous les transformations du monde agricole dans les années 2000 à nos jours, s'il te plaît. Merci.
Donc, dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les tracteurs à cabine. Plus de puissance. Du coup, il y avait plus de largeur niveau outillage et des nouveaux styles de tracteurs. Un meilleur confort aussi et des meilleures qualités sur la route et dans les champs. Les travaux de sol donnent de meilleurs rendements. Donc, c'est avec tous les engrais qu'on met et tout. Les outils sont du coup plus grands. Ils sont plus autonomes. Les parcelles sont beaucoup plus grandes, les travaux de récolte sont de plus en plus automatisés, des nouvelles variétés de semences sont utilisées et la France est le premier pays en production agricole de l'Union européenne à la fois pour les produits végétaux et les produits animaux. Mais depuis le début des années 2000, la concurrence des autres pays européens augmente.
Merci. Et côté élevage, Maxence, que se passe-t-il, s'il te plaît ?
Non, maintenant, à côté élevage, les troupeaux s'agrandissent. La distribution d'aliments commence à être automatique. Les salles de traite sont de plus en plus modernes, mais tout cela oblige les agriculteurs à s'endetter.
Merci Maxence. Mathieu, dis-nous en plus, s'il te plaît.
Aujourd'hui, les exploitations sont de plus en plus grandes. On utilise notamment des robots, des capteurs de température et d'humidité, des images aériennes et la technologie GPS, ce qui a rendu l'agriculture plus rentable, plus efficace, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Il y a de plus en plus de fermes biologiques, à peu près 53 000 agriculteurs bio pour environ 957 000 agriculteurs en conventionnel.
Merci. Ton patron a-t-il des tracteurs équipés de GPS ? Quel est l'intérêt des GPS ?
Alors oui, on a un John Deere un 6110 fait pour souvent les petits travaux du genre aller traiter dans les champs et prendre de l'engrais. Ça rend une facilité dans les champs, du genre le GPS va mettre plus d'engrais dans un coin que d'autres. Enfin, il va capter les zones où il faut mettre de l'engrais et d'autres moins.
Alors petite question, qu'est-ce qui vous plaît dans cette agriculture ? Pour quel intérêt et pourquoi vous le faites ?
Moi, je le fais par amour du métier. C'est mon rêve de gosse. Ce métier, je l'aime depuis tout petit. C'est un très beau métier. Et moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est être au contact de l'animal et de la nature.
Merci, Mathieu. Mathias.
Bah, moi, je travaille en agricole pour la passion de ce métier. Donc, niveau élevage et niveau travail de sol, tout, faire du tracteur.
Culture.
Voilà, exactement. Et puis, parce que c'est une passion, je l'ai déjà dit, mais c'est un métier où on apprend plein de choses.
Polyvalent.
Voilà, exactement. On apprend tous les jours de ce métier.
Merci Mathias. Maxence, ton opinion et ton ressenti, s'il te plaît.
Parce que j'aime le métier, j'aime la nature. Et ben après, l'élevage, ça me plaît. Et j'aime bien travailler avec du gros matériel. Et après, c'est bien que depuis, tu grandis. Tu commences tout petit, après tu commences à avoir un assez gros matériel. Tu changes de culture tous les ans, tu changes tous les jours de l'activité que tu fais. Tu fais jamais la même chose.
Merci les garçons. Merci les gars. Nolan, on accueille Nolan et Geller au niveau de la main d'œuvre. Qu'en penses-tu ?
Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui dans l'agriculture représente 400 000 emplois, soit seulement 1,5 de la population active en France. La main d'œuvre a fortement diminué parce que le matériel est de plus en plus grand technologique.
Merci Nolan. Explique-nous l'évolution du matériel, s'il te plaît.
Alors, les tracteurs sont moins polluants. Plusieurs techniques coexistent. Utilisation des GPS, des drones, de nombreuses technologies qui permettent de limiter le gaspillage, d'améliorer la précision, de lutter contre la pénibilité du travail. D'ailleurs, certains agriculteurs préfèrent faire intervenir une ETA plutôt que d'investir dans du matériel.
Merci. Qu'est-ce qu'une ETA ?
Une ETA est une entreprise de travaux agricoles, c'est-à-dire qu'il y a des employés qui vont chez des agriculteurs faire le travail à leur place.
Merci Nolan. Geller, parle-nous du métier s'il te plaît, des avantages et aussi des inconvénients.
Bonjour Lucas. Le métier reste difficile, il faut travailler tous les jours, même le dimanche, les jours fériés, en hiver comme en été et parfois pour des clopinettes.
Un agriculteur se suicide tous les deux jours. On a vu à la télévision récemment la manifestation d'agriculteurs. Ces derniers réclament de meilleurs revenus, vendent leur production au juste prix. Ils veulent davantage de reconnaissance. Ils ont une image de pollueur. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, l'agriculture évolue pour être plus durable, devenir une agriculture raisonnée ou même une agriculture bio. Il y a 2345 exploitations agricoles bio dans l'Eure. Il y a de nombreux défis à relever pour l'agriculture. Elle va devoir s'adapter au changement climatique tout en restant rentable.
Merci Nolan. Geller, peux-tu me dire les avantages et inconvénients du métier ?
Déjà, l'agriculture, c'est pas un métier, c'est une passion de une. Car quand on se lève, c'est avec plaisir, car on va voir nos animaux, pour ceux qui ont des animaux, ceux qui ont de l'élevage. Être auprès de la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Alors forcément, dans tout métier, il y a des inconvénients. Que peux-tu nous dire sur les inconvénients ?
Déjà, il y a beaucoup de risques, comme les chutes de boules de paille, d'être écrasé par des animaux, se couper une main avec une disqueuse pour réparer des boxes, couper une gouttière, tout type de blessures, être écrasé par un engin agricole, il y a beaucoup de risques.
C'est fréquent.
Tous les jours.
Par rapport à l'histoire, à quelle période aurais-tu préféré travailler, Nolan ?
Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien dans l'agriculture, j'aurais préféré au jour d'aujourd'hui.
Avec les nouvelles technologies,
Oui, tout à fait, avec les GPS, tout ce qui nous aide à mieux travailler. Quoi.
À avancer dans le métier, faire plus rentabiliser
oui, c'est ça.
Le métier. Pas de problème, merci beaucoup. Merci à tous pour cette émission qui retrace l'évolution de l'agriculture à partir du livre de Claire Lecoeuvre, Les pieds dans la terre aux éditions des éléphants. Vous venez d'écouter l'émission des CAP métiers de l'agriculture première année du CFA du Neubourg.
Me présente, c'est moi qui nourris la France, paysan de père en fils depuis mon enfance. Mon métier c'est toute ma vie, alors fais-moi
l'arbre dans la terre, je suis la semence. Les valeurs de l'agriculteur dans mon cœur, sur le tracteur, c'est peut-être ça le bonheur. Je compte pas mes heures de bosseur et l'odeur, ni la chaleur ou la fraîcheur de la peur. C'est ma passion avec de l'engrais. La vraie vie, c'est pas l'amour et dans le pré. Quand nous serons plus là, tu feras quoi après? Sauver le monde agricole, je suis prêt.
Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt.